Et déjà.
Oui, enfin, c'est...
Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs parce que...
Bah, l'auteur de la théorie, forcément, il occupe une place centrale. Thierry Messant, c'est particulier parce que le gars était totalement inconnu avant. C'est vraiment Ardisson qui a fabriqué Thierry Messant de ce point de vue-là. Ce qui a aidé à la notoriété de Messant, c'est un type qui vient des groupes d'extrême gauche, de militants pour la laïcité, tout ce qui s'en fait. Donc ça, ça lui donnait du crédit. Il a vu quelque temps avant une pleine page dans l'Ibé, une dernière page de l'Ibé où on vantait ses mérites. Donc c'était quelqu'un qui était considéré comme...
Il a écrit des livres sur Pascal, sur Simon...
Alors des trucs comme ça, oui, mais avant, il avait encore... Moi, j'ai un livre de lui sur le yoga et trucs comme ça. Il a aussi écrit ce genre de choses. Donc, mais effectivement, il était impliqué dans tout un tas de dénonciations, d'attaques de la démocratie, enfin bon, d'hommes politiques, du pape et tout ce qui s'ensuit. Donc il a vu une image dans tous les, on va dire, le réseau milieu parisien de gauche et tout. Donc Ardisson s'en est servi là-dessus. Quand il le présente, il dit oh, vous n'êtes pas n'importe quoi, vous prenez le crétin de nuit et tout. Hein. Et puis il y a l'effet Ardisson, quoi.
Donc en fait, la théorie du complot, finalement, au bout du compte, c'est pas tellement l'auteur, mais le média qui l'a mis en valeur. C'est
un ensemble de choses, je pense. Il n'y a pas une explication.
Non, mais là, ici, vous pensez que c'est ça.
Là, c'est clair que l'émission d'Ardisson a joué.
C'est une émission, en fait.
Oui, mais alors, à cette émission, vous avez des tas de trucs qu'Ardisson présente, et les gens ne se précipitent pas sur les livres. Toutes les semaines, ils vendent des livres, Ardisson. Et la plupart du temps, vous n'allez pas en librairie le chercher. Celui-là, les gens sont allés le chercher. Il y a une raison particulière. C'est qu'en fait, cette histoire du 11 septembre, c'est un événement qui ne correspond à rien dans le genre catastrophe à quoi on s'attend. C'est pas de l'ordre d'un truc. C'est de l'ordre d'un James Bond ou de Independence Day. C'est ce niveau-là. C'est de la science-fiction. Le 11 septembre, c'est l'éruption de la science-fiction dans la vie quotidienne. Donc déjà, ça déplace une frontière qui était bien fixée, la frontière entre ce qui est crédible et incroyable, entre ce qui est possible et impossible.
Donc déjà, ça... facilité à créer une théorie du complot là-dessus.
Oui, mais pas tout de suite. Dans un premier temps, ce que ça provoque, c'est un silence complet. On est incapable d'en parler. Pendant des mois, on était incapable de parler de cet événement, sinon sous le régime de la compassion, de la tristesse.
Du choc aussi.
Voilà, le choc. C'était tout ce qu'on trouve comme littérature, c'est ça.
C'était une
guerre très émotionnelle, en fait. Voilà. À côté de ça, il y a effectivement les adeptes du complot qui ont démarré au quart de tour, mais c'était sur Internet et tout, et personne ne les écoutait parce que justement, l'horreur était telle qu'on ne voulait pas rajouter dans la monstruosité avec ce genre de théorie. Mais peu à peu, les questions se sont accumulées. Donc, en gérant une histoire qui est quand même un attentat sur le régime du choc, de la compassion et tout, on a beau connaître le coupable et tout, les questions s'accumulent. Et comme c'est lié à une enquête fédérale, la CIA, enfin, tout le monde s'en est mêlé, et donc il y a du secret, du coup, ça génère encore plus de questions. Et Messant est arrivé au moment où on avait fini le deuil et on pouvait commencer à parler d'autre chose. Et grâce à Ardisson, il a eu une chambre d'écho extraordinaire.
Donc c'était aussi une question d'être au bon endroit au bon moment.
Être au bon endroit au bon moment, je pense pas que ça... il a su créer le bon endroit le bon moment.
Ah, il l'a créé.
Voilà. Il y a d'autres livres qui étaient parus, il y a un ou deux autres bouquins, je crois, à peu près à la même époque, qui remettaient un peu en question et tout. Mm-hmm. Mais on n'en a pas entendu parler.
Parce que lui.
Pourquoi ? Ils n'avaient pas la même audience, ils ne sont pas passés chez Ardisson, il n'y a pas eu l'effet, il n'y avait pas cette personnalité de Thierry Messant, il n'y avait pas...
C'est cette personnalité-là qui me pose... Enfin, c'est pas qu'elle me pose problème, mais qui me donne l'impression qu'elle est... Parce que quand on lit le Papagay, moi je lis la Papagay, je n'ai pas lu l'intérêt avant.
C'est le premier qui est important, le deuxième, les gens n'ont pas lu.
Oui, mais le deuxième est intéressant parce que c'est un approfondissement, donc au niveau de la manière de se voir...
C'est vraiment le premier... C'est le premier que les gens ont lu et c'est les premiers chapitres. La fin, personne ne l'a lu. Ce que les gens ont lu, c'est il y a un complot pour le cacher la vérité. Et c'est l'appareil d'État américain, il y a un gouvernement dans le gouvernement. Au-delà, les gens ont laissé tomber.
D'accord, mais en fait, nous, c'est pas par rapport aux gens, c'est par rapport En fait, ce qui intéressait M. Latour, et c'est nous, c'est surtout là-dessus qu'on travaille, c'est le fait d'introduire des modes de preuve qui ont l'air très scientifiques dans une théorie du complot. Et là-dessus, le parallèle. Comme c'est un approfondissement de l'infâme à ma posture, me donne un plus grand panel de... Voilà.
Oui, pour voir comment il développe son...
Voilà. Et si vous voulez, les deux premiers chapitres où il développe cette méthode-là, et un premier chapitre où il ne s'attaque qu'à la presse qui a attaqué lui.
Ben oui. disait pas sans fin.
Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a, une paranoïa personnelle au niveau de la paranoïa générale dont on parle de ça. Et il y a une forme de mégalomanie, et je voulais savoir si vous avez déjà vu cette espèce de côté mégalomane dans d'autres théories, enfin, de la part de l'auteur dans d'autres théories.
Oui, mais c'est pas ça le plus important dans sa théorie. Dans sa théorie, c'est toute la rhétorique qu'il met en place, toute l'argumentation de la preuve qu'il met en place. Mm-hmm. C'est ça. Après, il y a des aspects personnels liés à la personnalité de Thierry Messant, et au fait qu'il est attaqué par tout le monde et tout, qui sont un peu paranoïaques, c'est vrai que le nom lui en veut, d'une certaine façon. Donc... ce qui me semble important dans son truc, c'est vraiment qu'est-ce qu'il agence ensemble pour faire preuve. Et comment il construit son truc et tout. Et ça, le modèle, on le connaît. C'est que Thierry Messant, c'est un enfant de la République, laïque, rationaliste et tout, et c'est là-dedans qu'il le prend.
C'est là-dedans qu'il le prend.
C'est un rationaliste.
Qu'est-ce que vous, comment vous décririez les mécanismes de preuve utilisés dans les théories du complot en général ? Est-ce qu'on peut dégager une généralisation ?
Oui, il y a un certain nombre de choses qu'on retrouve, c'est notamment sur l'utilisation des images. C'est-à-dire que chez Messant, l'image, c'est pas une image parmi toute une série d'images, comme on fait en science, c'est une fenêtre vers la réalité. Il regarde à travers l'image comme s'il regardait à travers une fenêtre. Et il dit, vous voyez, là sur la pelouse, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Alors qu'en science, quand vous avez une image avant, vous avez une image après, et c'est le chaînage de toutes ces images qui fait quelque chose. Chez Messant, non, l'image, elle lui donne accès à la réalité. Et ça, vous pouvez l'aller.
C'est ça que vous êtes en train de dire.
C'est pas vraiment ça, mais c'est qu'il a, il la considère vraiment comme un accès direct à la réalité. Tout ce travail de médiation par rapport au réel, de construction du réel et tout, il l'annule en disant, il y a la réalité. Et ce truc me permet de voir, de vous dire de quoi est la réalité. Et puis, il s'approche sur tout un tas d'autres choses, qui est de dire, vous pouvez tous voir que, c'est ça, chez Messant, c'est toujours l'argument, tout le monde peut voir que. C'est cette autre idée, et c'est vrai qu'on voit tous des choses sur la photo. Parce qu'effectivement, sur cette photo, on reconnaît le Pentagone, on reconnaît la pelouse, on reconnaît tout ceci, cela. Mais ça, c'est une fausse idée de la réalité, c'est de croire que la réalité est un accès direct. Si vous décalez maintenant, vous prenez d'autres images, les photos, les images prises par l'U2 des constructions de bases à Cuba avant la crise de Cuba.
Oui.
Vous allez voir les photos, et il y a une réunion à la Maison Blanche avec Bob et Jack Kennedy, où les mecs de la CIA leur montrent les photos. Ils disent, qu'est-ce que vous voyez dessus ? C'est le même processus. Bob dit, ils installent des terrains de tennis. Non, c'est pas ça. Alors, je ne sais plus, déjà Kennedy avec une autre hypothèse et tout, mais il y a dit, non, c'est les rampes de lancement de missiles nucléaires. Et c'est là où on voit que si vous changez un tout petit peu la photo, vous voyez que vous ne voyez plus rien. Donc l'erreur, c'est de croire qu'on peut voir quelque chose sur une photo. C'est ça l'erreur. C'est que si vous n'avez pas tout un travail d'expertise, de discussion, tout un débat autour et tout, vous ne voyez rien. Les trucs ne sont pas en accès direct. Même si vous prenez vos photos de famille, à vous, elles vous disent quelque chose, mais parce que vous avez tout le savoir intégré. Vous les montrez à quelqu'un d'autre, ils ne sauront pas dire qui est qui, quel est le contexte et tout ce qui s'ensuit. On pourrait l'interpréter différemment.
Donc c'est une absence de contexte.
Voilà, il enlève tout ce qu'il aurait dû construire autour, avec des experts en mobilisant des tas de trucs et tout. Et justement, si vous prenez la réponse qui a été faite par Daske et Pinel dans leur livre à la découverte, c'est de montrer qu'on ne peut pas regarder directement, que pour regarder telle trace dans la pelouse devant le panneau, il faut tel expert qui vient nous dire voilà comment ça se passe quand l'avion tombe, des trucs comme ça. De pouvoir regarder tel autre truc, il faut tel autre expert, etc. etc.
Mais à propos,
Daske et Pinel, l'effroyable mensonge.
J'allais te dire la même chose.
C'est la réfutation du livre de Messant.
Voilà, à ce propos, moi j'ai notamment un problème. Bon, je suis arrivé au chapitre 3 un peu perplexe, puisque son chapitre 3. Qui soutient donc l'hypothèse du missile est soutenu par un scientifique, de l'armée qui est censé être reconnu, d'après ce que donne ma petite note. Et ça, c'est pas très émotionnel, mais c'est ce scientifique qui donc nous présente, bon, relativement bien, en vulgarisant un peu, les différences entre la déflagration, la détonation, en fonction des témoignages, on peut dire que ça fait tel bruit. Quand on voit telle fumée, on sait que ce n'est pas du kérosène, etc. Donc, bref, la question c'est, quand je suis face à ça, je ne sais pas quoi penser. En tant que lectrice, je suis pas forcément orientée objectivement, puisque je suis censée toujours trouver la faille dans la théorie du complot de l'évidence, et c'était mon rôle quand je lis. Là, je me dis, quel est son but quand il nous présente quelqu'un de... Est-ce que c'est quelqu'un de valide, de type, Quel est son but ?
C'est pas votre problème, ça. Lui, il présente un expert, d'autres vont présenter d'autres experts. C'est-à-dire qu'il dit, il présente d'autres experts. Donc à la limite, c'est pas ça le problème. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que Messant fait. C'est-à-dire que Messant, à la fois, il vous présente un expert, et il dit constamment, et c'est ça sa force. C'est quand tout le monde peut le voir. C'était toujours son argument du début jusqu'à maintenant. C'est toujours son truc, c'est cette grande idée que c'est comme ça qu'il a le public avec lui, les parties publiques, qu'il intéresse les gens. Parce qu'il ne va pas dire aux gens, contrairement à certains, la plupart des scientifiques, vous n'êtes pas compétents.
C'est ça. Donc implicitement, il sous-entend que
tout le monde
engage des experts est quelque chose d'incompréhensible pour le commun des mortels. Et peut aussi faire partie intégrante d'une théorie du complot. C'est-à-dire que les experts vont jargonner,
Alors, mieux. L'autre truc, c'est que chez Messant, et c'est là où c'est à la fois sa force et sa faiblesse, c'est-à-dire que dès qu'on est d'accord avec lui, on n'est pas simplement un adversaire avec lequel il discute, on est quelqu'un qui cache quelque chose. Ouais. Et ça, c'est là.
C'est comme ça qu'il agit par rapport à la presse, d'ailleurs.
La presse, surtout les familles des. Ce qu'il appelle les prétendus disparus, là-bas, il dit ah oui, mais regardez, un tel, il travaille au Pentagone. Donc, il est. Oui, alors, toute personne a dans son CV quelque chose qui va lui permettre d'être rejeté par Messant.
Et est-ce que c'est pas un peu démagogue comme discours de dire. De parler aux gens en voyant des arguments comme tout le monde peut le voir
c'est le langage de la politique.
Est-ce que c'est pas une. C'est pas une façon justement de rendre crédible une théorie ou...
Oui, est-ce que c'est des magots? Je pense que Messant, il faut le rencontrer, il est convaincu de ce qu'il dit. Il se présente comme le chevalier de la vérité. Ouais. Donc, oui, encore une fois, je pense que c'est pas une explication. Cette explication-là, elle est apportée par d'autres. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous suiviez le processus jusqu'au bout. À aucun moment, il faut que vous l'interrompiez en disant « là, il est démago, là, il est ceci, là, il est cela ». Ce n'est pas votre problème, à la limite. Ce qu'il faut, c'est que vous compreniez le truc jusque... Il y a quelqu'un qui va intervenir, qui va dire « mais ça, il est démago ». Donc, votre travail, c'est de le noter. C'est plutôt ça. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Donc, voir non seulement comment les gens vont dire ce qu'est le réel, la photo, ce qu'il y a, mais également comment ils vont réagir à ce truc-là, comment ils vont faire de la sociologie par-dessus en disant « mais ça, est ceci, mais ça, est cela », ou les autres sont conspires et autres. Parce que à ce niveau-là, on n'est plus non seulement dans la définition de la réalité, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, à ce moment-là, mais également, qu'est-ce que c'est que la sociologie qui va avec. C'est-à-dire, les gens vont dire, lui c'est un menteur, lui c'est un conspirateur, lui c'est. Bon, mais ça, non seulement ils disent qu'elle est réelle, mais ils construisent une sociologie. Il y a toute une idée de la société qui va avec. Le gouvernement caché et tout ce qui s'ensuit. Et après, les autres en rajoutent derrière. En disant, mais non, mais Messant est un menteur, il fait partie de tel réseau extrême-droite, son expert, c'est un militaire qui était en Bosnie, qui est quasiment passé en cour martiale, qui est un fanfaron, mais rien de sérieux, et comme ça, ils se répondent.
Le problème, c'est que nous, notre rôle, c'est pas de faire d'étudier entièrement la controverse sur ce thème-là, quoi. C'est vraiment de. On doit étudier plusieurs cas, mais on ne peut pas se permettre d'étudier en détail chacun des cas qu'on a vu. Il faut essayer.
Ce qu'il faut, c'est trouver des communs entre vos différentes affaires.
En gros, c'est l'épistémologie. Quels sont les mécanismes les preuves qu'ils utilisent?
Oui.
Et alors, nous, on voulait savoir dans quelle mesure. Est-ce qu'il y avait des généralités qui pouvaient.
Si vous prenez l'ensemble, si vous prenez ça, puis après, vous prenez Kennedy. Qu'est-ce que vous avez, Kennedy? Vous avez le film de Zapruder. Et les gens disent, ah, ben là, vous voyez, il se passe tout le truc. Là, sur telle photo d'amateur, on voit qu'il y a un type derrière la palissade. Là, soi-disant, Kennedy t'attaque par deux balles, en fait. Il a fallu en tirer trois, donc, par rapport au fusil, le magnétien qu'avait, machin, ça ne correspond pas. Vous ne pouvez pas tirer trois balles, etc., etc. Donc, vous avez exactement le même processus que Messant. Les gens prennent tous les éléments qu'ils ont et disent, vous voyez bien qu'on ne voit pas ça. Qu'on voit autre chose. Donc vous avez tout le travail, vous trouvez des points communs rapidement. Et après, bon, vous avez le gouvernement secret qui a fait assassiner Kennedy et tout, ça.
Est-ce que ça contribue pour ceux qui sont les auteurs de théories du complot, est-ce que pour eux c'est un peu une preuve qui. Est-ce qu'ils utilisent ça comme preuve ou c'est simplement pour.
Qu'est-ce
qu'ils
utilisent comme preuve?
Le fait que quelque chose.
Ah oui, bien sûr.
Le côté caché, etc. Est-ce que pour eux ça fait vraiment argument ou c'est juste le côté sensationnel qui.
Non, c'est les gens qui sont convaincus de ce qu'ils disent.
Ils sont vraiment convaincus de ce qu'ils
disent. Ils sont très sérieux. Mais prenez le complot. L'autre truc, c'est que toutes ces théories du complot, là, vous avez des cas un peu extrêmes. Mais c'est pas non plus extraordinaire en soi. Vous prenez le journal de 20h tous les jours, vous avez toujours des affaires de politique, de finance, de ceci, de cela, où on n'est pas sûr de savoir ce qu'on nous dit. Donc on est tous un peu concernés par ce truc-là. Il y a des moments où on développe tout un chacun des théories qui sont proches. Elles n'ont pas forcément le même contenu.
Et par exemple, tous les politiciens sont des pourris, ils passent leur temps à nous mentir.
Voilà, c'est la forme la plus banale du complot.
D'accord.
Ces gens-là ne nous représentent pas. La théorie du complot, elle naît dans sa version vraiment moderne à la Révolution française. À partir du moment où on passe d'un roi qui est. Le roi ne représente pas le peuple, il représente Dieu sur terre. Donc, à un moment où on a un régime parlementaire, où on a des hommes qui vont représenter d'autres hommes.
Oui, donc là, c'est un temps supérieur.
Voilà. Donc là, vous avez un truc complètement différent, qui est des hommes représentant d'autres hommes, donc les représentés doutent des représentants. Et c'est là que ça naît.
Parce qu'il n'y a plus de vérité avec un grand V.
Parce qu'il n'y a plus, effectivement, c'est plus Dieu qui parle au peuple. Alors ça commence au peuple, il y a eu tout un tas de rumeurs à... avant la Révolution, sur des enlèvements d'enfants, pour soigner des princes malades, des trucs comme ça. Donc on sentait que la confiance dans les rois n'était plus ce que c'était. Mais vraiment, avec le régime parlementaire, là, ça devient une logique sociale parmi d'autres. C'est un discours qui est normal.
Et est-ce que ce serait le point de départ pour des théories du complot ? Donc on se dit, le gouvernement nous cache quelque chose, ou les instances supérieures nous cachent quelque chose, et du coup, notre esprit va se donner une idée de chercher les failles et de chercher les cas où ils nous ont caché des choses.
Mais là aussi, le point, c'est que c'est pas forcément que les gens veulent voir des complots, c'est que dans la vie de tous les jours, ils tombent sur des trucs qui posent problème, ils essaient de les expliquer, et puis au bout d'un moment, ils disent, ils ont besoin de mentir. Donc la question, c'est toujours de savoir, est-ce que ce sont les faits qui amènent les gens à ces théories, ou est-ce que déjà les gens ont ces théories dans la tête et interprètent les faits. Ça, je pense que c'est un problème insoluble. Ça fait partie de la dispute. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire, oh, c'est des allumés, de toute façon, ils croient au complot, donc ça serait ça, ou les yaourts, la fraise, ça serait pareil. Ils croiraient au complot de toute façon. Mais non, le problème, c'est de savoir des faits ou de la théorie, qu'est-ce qui était là avant. Je crois que c'est en partie impossible de répondre.
On pourrait peut-être, je ne sais pas, suivant la place qui est accordée à chacun des arguments, on pourrait peut-être avoir une petite idée de...
Ce qui, à mon avis, le truc qui est intéressant...